Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
C'est la même équipe pour le même devoir et avec le même plaisir. Berry, Franklin, Luchaka est présent pour la partie info.
Dominique Strauss-Kahn à Kinshasa, mais pas fini avec la conclusion d'un accord FMI-RDC. Les contrats chinois toujours gênants et divisés.
Nazar Koko nous en fait le condensé dans la seconde partie de cette émission. Et les contrats avec les entreprises chinoises peut-il cohabiter avec un accord avec le FMI? Jean-Lucien Boussa, vice-président de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale, est l'invité à suivre dans 10 minutes. D'abord, les infos au pays. La quatrième intervention de la Banque centrale sur les marchés d'échange a eu lieu cet après-midi.
La Banque centrale du Congo a vendu 9 millions de dollars à 8 banques commerciales au taux de 788 francs pour 1 dollar. La Rao Bank a encore raflé la grosse partie avec 3 millions de 600 000 dollars. Et par ailleurs, le taux élevé de vente, 788 francs pour un franc congolais, pour un dollar plutôt, aura toujours pour effet de baisser le taux d'échange et non de le remonter, comme certains seraient tentés de le croire.
Et quelle est la température sur les marchés d'échange?
Le marché d'échange se clôture ce lundi à 790 francs congolais pour le dollar et 810 pour la vente. Les vendeurs des magasins utilisent le taux de 800 francs, voire 810 francs.
Le café s'exporte frauduleusement vers l'Ouganda via le lac Édouard dans le territoire de Lubero.
Nous sommes là à Butembo au nord Kivu et c'est selon la société civile locale, chaque jour des pirogues chargées de café traversent ce lac pour l'Ouganda. Parmi les raisons de cette fraude, il y a l'absence des services de l'OCC et de l'OFIDA sur la côte ouest du lac Édouard et les prix avantageux qu'offre le marché ougandais. Cette fraude prive l'État de rentrées financières importantes.
Une fonderie d'aluminium bientôt à Moanda, c'est dans le Bas-Congo.
C'est l'annonce du directeur des projets à la société britannique BHP Billiton le vendredi dernier à Kinshasa. June Coppens a annoncé que le coût de ce projet est de 3 milliards de dollars américains et pour l'instant, les études de faisabilité devront commencer dès la signature du contrat de partenariat entre cette entreprise et le gouvernement congolais.
La nouvelle économique au bout du fil.
Notre téléphone sonne au Maniema. La ville de Kindu vient de se doter d'une troisième baleinière après le MS Maendeleo et Usiano. La coopération technique allemande GTZ a lancé samedi le MS Amani. En direct de Kindu pour en parler, on retrouve notre confrère Dieudonné Ntumba Mobile. Dieudonné, vous avez assisté à l'inauguration de cette baleinière. Un petit mot d'abord sur sa construction.
Oui, Georges Kamoudjova, le samedi dernier, 2009, le plus précisément le 25 mai, inauguration à Kindu par le vice-gouverneur de province Pierre Massoudi Mendes, d'une troisième baleinière jetée par la SNCC. Après le MC Maendeleo, Ciano, la coopération technique allemande GTZ vient de lancer le MC Amani. Selon les constructeurs, cette baleinière d'une capacité de 30 tonnes a coûté 16 000 dollars américains et les travaux n'ont duré que 40 jours. Ils ont consisté à l'achat des planches, écrous, agrafes, coton, huile de palme ainsi que clous.
Alors, on le disait bien, c'est la GTZ, bon, tant mieux, mais quels sont les avantages de cette troisième baleinière au point de vue économique?
Bon, Georges, le conseiller de cet engin s'est fait aider d'abord par une équipe de 8 jeunes défavorisés, dynamiques, et selon les conseillers techniques de la GTZ, la plupart d'entre eux étaient des enfants soldats. Leur âge varie entre 17 et 24 ans et parmi eux, une fille. Toutefois, le vice-gouverneur leur a promis de les embaucher dans les ministères du transport dans les jours à venir.
Alors, Dieudonné Ntumba Mobile,
la province du Maniema, qui ne possède pas de routes en bon état et surtout avec la grève qui a sévi pendant 3 mois, la SNCC, a salué avec joie la construction de cette baleinière. Pour les opérateurs économiques, ceci vise à désenclaver la province et surtout à évacuer les produits vivriers manufacturés entre Kindu et Ubundu et vice-versa.
Et donc, les biens et les personnes sur ce tronçon fluvial Kindu-Ubundu circuleront beaucoup plus facilement encore?
Oui, alors, pour le moment, on compte 2 bateaux, dont un pour la SNCC et 2 pour Maniema-Union, 3 baleinières et plusieurs pirogues motorisées. Ces engins transportent les passagers et les marchandises qui vont des villages vers les centres de consommation et de Kisangani vers Kindu et vice versa via Ubundu.
Merci beaucoup Dieudonné Ntumba Mobile pour vos précisions. Je rappelle juste que vous interveniez de Kindu, l'on nous suit sur 103 FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, au Nigeria, plusieurs oléoducs détruits ce matin dans les sud pétrolifères du pays.
C'est ce qu'affirme le principal mouvement rebelle nigérian. Ce mouvement affirme avoir détruit des tronçons importants des pipelines pour entraîner l'assèchement de l'approvisionnement du réservoir des stockages des chevrons dans le delta. Je rappelle que c'est dans cette région que le Nigeria tire 95% de ses devises.
Le rythme de dégradation de la conjoncture japonaise s'est ralenti.
C'est le jugement du gouvernement nippon où aujourd'hui, dans son rapport économique mensuel, le mois dernier, il avait écrit que la détérioration s'est poursuivie très rapidement. Ce dernier estime que la chute des exportations et de la production industrielle est en passe d'être stoppée.
Et l'OCDE enregistre sa plus forte chute du PIB au premier trimestre depuis 1960.
C'est une chute d'un peu plus de 2% au premier trimestre 2009 par rapport au trimestre précédent. Aux États-Unis, les PIB a baissé de plus de 1% au premier trimestre cette année, comme lors du précédent trimestre.
Merci Berry pour ces infos économiques du monde. Si vous nous rattrapez sur Radio Capi, c'est Code Économique, vous suivez. Et voici sa seconde partie qui se tourne avec un dossier du jour de Nazar Coco.
Éco d'économie, le dossier.
Le dossier qui fait venir Nazar Coco. Alors Nazar, la RDC devrait encore attendre quelques semaines, voire quelques mois avant de conclure un nouvel accord formel avec le Fonds monétaire international. C'est ce que Dominique Strauss-Kahn a déclaré au terme de sa visite à Kinshasa. Selon le directeur général du FMI, plusieurs progrès ont été enregistrés dans les relations entre la RDC et cette institution de Bretton Woods, mais qu'il restait des questions à régler. Pour commencer, en quoi ce programme avec le FMI est-il important pour la RDC?
Il faut d'abord dire, Georges, que c'est le gouvernement congolais qui a fait appel au Fonds monétaire international pour résoudre la crise économique que le pays connaissait avant 2001, selon le ministre des Finances. Grâce au FMI, donc, l'économie congolaise est sortie d'une décennie d'hyperinflation, des récessions, avec ses conséquences sur les conditions de vie difficiles pour les populations congolaises. Les équilibres macroéconomiques ont été rétablis et la croissance relancée, mais n'a jamais atteint le point d'achèvement pour voir sa dette qui est de 12 milliards de dollars être réduite à 2 milliards. Tout simplement parce que le FMI a estimé que la République démocratique du Congo ne respectait pas ses conditions.
Et où en est-on aujourd'hui?
Il ne reste plus qu'une seule condition, Georges, le contrat chinois pour que la RDC puisse conclure un autre programme qui lui permettra de voir sa dette annulée.
Et pourquoi les contrats chinois empêchent-ils la RDC de conclure un contrat avec le FMI? C'est là qu'on ne comprend pas.
Tout simplement parce que les pays dont la RDC doit payer la dette estiment que ces contrats chinois constituent un endettement supplémentaire. Écoutez à ce sujet la réaction du directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn.
Certains éléments techniques du contrat, et notamment la garantie qui est demandée sur la partie minière, sera considéré par les créanciers internationaux dans la procédure d'allègement de dette comme une augmentation de la dette. Une garantie, c'est comme si on s'était engagé sur cette dette. Et à ce moment-là, ça fait exploser les niveaux susceptibles de parvenir à l'allègement de la dette. Ce qu'il faut, c'est et les contrats et l'allègement de la dette. Vous avez besoin des deux. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, trouver des modalités techniques à proposer aux partenaires chinois qui lui fournissent la garantie dont ils ont besoin, parce qu'il est normal qu'ils demandent des garanties.
Alors, Nazar, on a écouté Dominique Strauss-Kahn. Quelles sont ces conditions pratiques auxquelles fait allusion Dominique Strauss-Kahn?
Le directeur du FMI n'a pas voulu les dévoiler lorsque nous lui avons posé cette question. Écoutez sa réaction.
Non, je ne peux pas être plus explicite. Lorsque votre gouvernement discute avec des investisseurs, lorsque le Fonds monétaire essaye de servir les intérêts des deux, des investisseurs et du gouvernement, pour que le meilleur service possible de l'économie du Congo, ce sont des questions qui font partie d'une négociation, et on ne négocie pas sur la place publique. Donc il n'y a pas de doute que vous aurez les éléments de cela lorsque ce sera terminé, mais pas maintenant.
Bon, écoutez, mais quelle est alors la position du gouvernement congolais?
Le gouvernement congolais va se mettre au travail pour trouver ce compromis. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Adolphe Mouzito.
Le gouvernement veut et a d'ailleurs déjà commencé à discuter avec les amis chinois pour des réajustements possibles de manière à rendre compatibles ces contrats avec les conditionnalités aussi bien du FMI que des bailleurs bilatéraux. Nous avançons et nous voulons bien que nous entrions en programme sans particulièrement attendre l'étude des faisabilités. Et pour cela, nous allons lever un certain nombre d'options au niveau du gouvernement en discussion avec les partenaires bilatéraux, mais aussi avec nos amis chinois, pour que plus ou moins des garanties soient accordées de manière à ce qu'on entre en programme dès juin et juillet.
Et donc, c'est au plus tard en juillet qu'on saura si le gouvernement congolais va conclure un nouveau programme avec le FMI.
Effectivement, Georges.
Merci beaucoup, Nazar Koko, pour ce dossier, mais j'ai dit qu'il est encore à suivre.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. echo@radiookapi.net.
Alors, l'invité de l'économie ce soir est Jean-Lucien Boussa. Vous êtes vice-président de la commission économico-financière à l'Assemblée nationale. En tout cas, le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, est passé aussi par l'Assemblée nationale. Vous avez suivi tout son parcours et toutes ses déclarations. Est-ce que les contrats chinois peuvent cohabiter avec un accord formel RDC-FMI?
Merci pour la question. C'est la question que j'ai soulevée d'ailleurs au niveau de les deux commissions économiques et financières auprès de M. Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, où j'ai indiqué les dilemmes qui existaient entre la nécessité pour la République démocratique du Congo d'atteindre le point d'achèvement, c'est-à-dire bénéficier des allègements de plus ou moins 9 milliards de dettes, mais en même temps, le couac du contrat chinois fait que la République démocratique du Congo prenne le nouveau risque de surendettement, parce que dans les contrats chinois, c'est l'État qui s'engage à pouvoir rembourser dans l'hypothèse où les gisements miniers n'étaient pas suffisants. Si ce qui est considéré dans les contrats chinois comme étant des conditionnalités qui risquent de bloquer d'une part l'atteinte du point d'achèvement, mais d'autre part les financements d'autres bailleurs de fonds. Parce que cette dette-là, chaque fois qu'on dégage dans le budget 250 millions de dollars pour les services de la dette, mais c'est de l'argent, si la dette est annulée, qui permettrait de financer aussi les programmes de reconstruction.
Ça fait plus d'une année que le gouvernement et le FMI tentent de trouver en tout cas un point commun sur cette affaire et ça n'arrive toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est le FMI qui ne comprend pas ou c'est le gouvernement qui ne transige pas sur ses positions?
Bon, je ne suis pas le représentant du gouvernement, je suis député national. Ouais. Cependant, là où se pose le problème dans le contrat chinois, le Fonds monétaire international estime que le prêt chinois est consenti à des conditions qui ne permettent pas à la République démocratique du Congo d'essouffler et de ne pas prendre le risque d'un surendettement. C'est ça le problème. Et donc je crois que si la RDC, la Chine, règle cette problématique, il est possible que le point de vue harmonisé avec les Fonds monétaires internationaux soit obtenu, et donc en même temps avoir les bénéfices de financement des autres bailleurs de fonds, mais en même temps être en programme avec les Fonds monétaires internationaux.
Quand c'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, les députés, vous aviez promis aussi de jeter un regard sur ça et d'ailleurs vous espériez même que le gouvernement puisse marquer un point en réexaminant ce contrat avec les Chinois, je crois au mois de janvier. Est-ce que au niveau de l'Assemblée nationale, vous ne vous sentez pas aussi responsable de ce blocage dans les relations entre la RDC et les institutions de Bretton Woods?
Mais pas du tout. L'Assemblée nationale avait pris ses responsabilités en son temps. Ici, je parle comme député national, appartenant pas forcément à un groupe politique. Non. Rappelez-vous que l'opposition avec laquelle elle appartient à l'époque. Et l'Assemblée nationale, dans le débat sur la question, avait fait 10 recommandations au gouvernement. Pas dans le sens d'ajustement de ces contrats pour tenir compte des impératifs, n'est-ce pas, à la fois interne et externe.
Et il n'y a pas eu de suivi, hein?
Non, il n'est pas de la responsabilité de l'Assemblée nationale de pouvoir considérer ce quoi que serait de la responsabilité de cette institution. Par contre, nous estimons qu'aujourd'hui, à la fois les 10 recommandations faites par l'Assemblée nationale au gouvernement, que les préoccupations estimées par les Fonds monétaires internationaux, je crois qu'il n'est pas impossible de pouvoir arriver à un consensus pour considérer qu'il y a des dispositions du contrat chinois qui peuvent bien être modulées, mais en même temps que la République démocratique du Congo ne doit être prisonnière ni du contrat chinois, ni des conditionnalités du Fonds monétaire international que nous avons souhaité du reste, qu'elle soit assouplie. Mais il se pose un véritable problème pour notre part. Les conditionnalités aujourd'hui doivent aussi être posées en termes de bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'impunité, sans lesquelles, quels que soient les engagements que nous prenons avec n'importe lequel des bailleurs de fonds, nous risquerions de retrouver la même situation de départ.
Merci beaucoup à Jean-Lucien Boussa de nous avoir parlé dans Écho d'économie. Je rappelle juste que vous êtes vice-président de la commission économico-financière à l'Assemblée nationale. C'est avec vous donc que nous terminons cette émission Écho d'économie réalisée par Daniel Tambinzoni, Berry Luchaka et Nazar Koko. Supervision Nicole Ngaka, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.